Mardi 4 août. Le lendemain, la diane fut sonnée dès l'aube, naciente aurora. Tout le monde sur pied. La lueur vague du jour naissant éclairait d'un reflet pâle la surface immobile du lac. Quelques poissons, commençant à quêter leur pâture, faisaient un bond en l'air et soudain disparaissaient pour aller plus loin recommencer leur chasse aérienne. La truite de ce lac a une renommée de fraîcheur et de saveur fort appréciée des gourmets. Heureuse la fourchette qui rencontre la chair ferme, rose et saumonée d'un de ces gros poissons que le lac donne dans une de ses pêches d'été, favorisée d'un demi-clair de lune tempéré de légers nuages. Car il y a un art pour pêcher la truite avec succès. Mais je ne veux pas le livrer au public par une de ces coupables indiscrétions que ne me pardonnerait pas cette classe de pacifiques citoyens qui trompent les ennuis de la vie par un art honnête que j'estime sans le cultiver, la pêche à la ligne. Ce lac, dont la berge est marécageuse et son étendue assez restreinte, n'a de remarquable que sa truite et l'amphithéâtre majestueux qui l'environne. Une légende poétique, que je connais à peine d'hier, lui donne cependant un attrait dont je ne voudrais pas le dépouiller. C'était, autrefois, une vaste prairie verdoyante entourant une cabane dans laquelle vivaient, retirées dans la solitude de ces monts, deux jeunes filles d'une rare beauté. On ne savait pas leur pays d'origine, ni leur mode d'existence, ni leur nom. On les avait vues seulement quelquefois au lever du soleil, cueillant des fleurs et des fraises dans les bois voisins, mais se hâtant de rentrer dans leur chaumière dès qu'elles sentaient, en ces parages, la présence de quelque être humain. Un jour, des sources mystérieuses émergeant du sol à grands flots couvrirent la prairie d'une profonde nappe d'eau. La cabane et ses deux timides solitaires furent subitement engloutis. Aujourd'hui encore, le pêcheur attardé à l'heure des pâles visions voit sur les bords du lac les deux jeunes nymphes peignant leurs longs cheveux et se mirant dans la nappe cristalline de ses eaux. Tandis que mes camarades admiraient les pentes boisées du cirque qui se couronnent d'une dentelure de rochers et pronostiquaient les probabilités du temps, j'allais visiter sur la rive orientale un petit tertre, le tosse des moussus, qu'ombrage une touffe de vieux hêtres. Avant la construction du chalet forestier, c'était le rendez-vous habituel des visiteurs du lac. Là que l'on allumait le feu contre un bloc de granit et que l'on dressait la plus rustique des tables sur le gazon. Il y avait longtemps que je ne m'étais assis sur ces roches couvertes de mousse où je me souvenais d'avoir passé deux belles journées de ma vie. Nous étions venus à cet âge où tout est candeur et espérance dans les mystères de l'avenir, quelques amis. Je revoyais avec émotion ces ramures séculaires qui nous avaient abrités, cette eau de la fontaine limpide que nous allions boire dans une coupe de nacre, et ces pâquerettes modestes qui avaient succédé à d'autres pâquerettes cueillies pour des absents, et un indicible sentiment de tristesse m'étreignit l'âme et mes yeux se mouillèrent de larmes. De tous ces amis d'antan, me disais-je, que te reste-t-il? Ce que la mort n'a point ravi, et il en est mort de si bon. Les événements de la vie les ont éloignés. Aux unes et aux autres, je garde un impérissable souvenir, et, dans le secret de mon cœur, je nourris l'espoir de les retrouver un jour. Encore une illusion, peut-être. On m'avait appelé. La caravane se mettait en marche. Il était 6 heures. Je dus m'arracher à mes tristes pensées et je quittai sans regret ce lac et son hémicycle grandiose qui n'ont plus pour moi les charmes d'autrefois. Si je ne parlais à des âmes qui ont souffert, je demanderais pardon de ces souvenirs personnels. Mais, comme la vie a des traits douloureux pour tous, plusieurs de mes lecteurs trouveront dans ces lignes l'expression d'un sentiment qu'ils ont connu. Nous reprenons notre itinéraire. Par des larges lacets que les forestiers viennent de tracer, nous montons lentement la belle forêt de Caducs, dont les hêtres magnifiques semblent aller d'une venue jusqu'aux étoiles. Les botanistes herborisèrent et firent ample provision de magnifiques cryptogames, de rhododendrons, framboisiers, roses alpestres, arnicas, myrtilles, etc., tandis que ceux qui s'attachaient aux observations géologiques constataient que nous quittions les terrains granitiques pour entrer dans l'Archéen qui disparaîtra bientôt pour reparaître sur les flancs du Valier. Après 2 heures d'ascension sous l'ombreuse forêt de Caducs, nous arrivons sur la haute lisière qui domine un instant les vallées de Bethmale, de Castillon, les forêts de Busan et d'Orgibette, jusqu'au dôme de Cornudère. Et, tournant à gauche, nous côtoyons la sapinière du mont Nère. Les coteaux des vallées que nous venions d'entrevoir avaient une teinte livide qui disparut bientôt sous un épais brouillard. À peine eut-on le temps de dresser l'appareil photographique et de prendre la silhouette d'un énorme tronc d'arbre qu'une avalanche avait jeté sur la pelouse et qui se soulevait encore sur ses branches rompues comme un géant blessé qui, pour se relever, tente un impuissant effort. La brume nous suivait, rapide et froide. Bientôt, elle atteignit le garbet de Balaam et nous déroba la vue de l'horizon et des sentiers que nous devions suivre. Sur les flancs du garbet, nous pûmes cependant distinguer l'ouverture d'une grotte. C'est dans cet antre, nous dit un berger, qu'un mouton, perdu par un bête mâlé, demeura de longues semaines enfermé, sans que l'on ait jamais su de quoi il s'était nourri, et, quand il sortit, sa toison ruisselait de gouttelettes d'or. C'est peut-être dans cette caverne qu'il faudrait envoyer les chercheurs de l'Eldorado. Légende pour légende, celle-ci vaut bien celle d'Orellana et de ses fameux trésors de Manoa. Le brouillard était devenu si dense que, malgré le secours de nos cartes et l'expérience de nos guides, nous perdions à tout instant notre chemin. Nous dûmes avoir recours à un pâtre qui voulut bien nous accompagner jusqu'aux laquettes d'échelle. Nous nous engageons dans une gorge étroite, semée d'éboulis de calschiste, et à quelques pas du lac, sur les bords d'une abondante fontaine, à 1900 mètres, nous nous arrêtons pour déjeuner. Il était 11 heures. Notre frugal repas terminé, nous nous remettons en marche et nous arrivons à 1 heure de l'après-midi aux cabanes des Chalets. Elles sont situées au nombre de 5 sur un vaste plateau entouré d'un cercle de hautes crêtes ruiniformes, d'un aspect fauve. Le Kerner projette au sud-ouest sa masse pyramidale qui nous annonce que nous sommes maintenant dans la région des grands rochers. Cependant, ce bassin de verdure parsemé de nombreux troupeaux à la clochette sonore, de cabanes, de parcs à bestiaux et de pâtres, malgré la sévérité de son cadre, offre un tableau gracieux, original. Ce n'est pas sans doute la bergerie poétique du Latium ou de la Sicile parfumée de myrte et de cytise, mais le génie de Théocrite ou de Virgile eût encore pu trouver sur ces hauteurs quelques gracieux motifs d'idylle ou de bucolique. Ce serait, ici, peut-être le cas d'étudier la vie du berger sur nos montagnes à la saison des pacages, de faire connaître la constitution des sociétés pastorales, leur hiérarchie, leurs usages. On y trouverait plus d'un souvenir de l'époque patriarcale, avec la paternité de son gouvernement et la simplicité de ses mœurs et de son industrie. Mais le temps nous presse, et nous ne devons pas oublier le but de notre voyage. Nous quittons bientôt les pentes gazonnées du plateau des Chaillets pour monter à travers un chaos d'éboulis aux portettes d'échelle, 2 300 mètres, qui s'ouvrent sur les pâturages de Haute-Serre, d'où enfin nous apparaîtra de près le Mont-Valier. À 2 heures, nous franchissons le petit col taché encore de quelques plaques de neige qui ne semblent disparaître qu'à regret, malgré les chaleurs de l'été, et nous descendons par un défilé rocheux vers les cabanes de l'Espugue. En arrivant, nous avons le plaisir de serrer la main au major, un beau et sympathique vieillard qui nous offre l'hospitalité de sa cabane. Il était 3 heures. Un ciel de plomb pesait sur ces montagnes. Notre vue, qui par un jour serein aurait dû embrasser toute la chaîne du Valierat au Maubermais et contournant au couchant suivre les crêtes divisionnaires du Biros et de la Belle-Longue, était cernée par les flancs des Laouzettes, obscurcie par un orage qui se déchaînait dans la partie supérieure du Rivérot. Nous hésitâmes à aller plus loin. Nous avions encore 3 heures de chemin pour arriver aux cabanes du Mont-Valier. L'orage pouvait nous assaillir en route. Nous jugeâmes prudent d'attendre pour voir de quel côté le jetteraient les courants atmosphériques. Nous ne perdîmes rien à la société de notre excellent majoral, vieux pâtre à tempérament sec, adouci par le sourire d'une bonté native, très accueillant, enthousiaste de ces montagnes et grand conteur des événements qu'elles rappellent. Sa cabane est bâtie dans un léger repli de terrain et domine les étangs de Crusius, de Balaguette et de Milouga. Ces trois étangs que vous voyez, nous dit notre hôte, servent de tombeaux à un grand nombre d'Espagnols qui venaient faire main basse sur les troupeaux français. Les Espagnols étaient en foule et pourvus de piques. Les bergers français n'étaient que 4 ou 5 et sans armes. Alors, l'un d'eux monte sur le tuc de la Sèbe et appelle au secours. Muni d'une trompette de verre, il crie à tous les bergers des montagnes et des vallées de bêtes mâles.
Hurlurit, hurlurit, atsicum liberalis, et la videro de la vaco in caudero in cae grudi,
Ce qui signifie Turlurette, Turlurette, au secours dans les montagnes d'Aranette, la génisse de la vache a été mise dans la chaudière et le chien de Baobi sur le billot pour être tué. L'appel fut entendu. Les défenseurs arrivèrent nombreux et terribles dans les représailles. Les envahisseurs furent tous précipités, sans pitié, dans les étangs.
Sin luz et malouet, sin luet et milouga, nous sa quantinia.
Autrement dit, dans l'étang de Cruzus 102, dans l'étang de Balouette 108 et dans l'étang de Milouga, on ne peut en compter le nombre. Un écolier de la péninsule, qui seul avait échappé au massacre, rentra en Espagne pour annoncer la triste nouvelle. Il alla par les vallées de Palias, répétant cette complainte. Ce qui donne en français, femme de Luz, couvrez-vous de vos capuchons, car vous êtes veuve. Aujourd'hui encore, il nous arrive, poursuit notre conteur, d'entendre pendant la nuit des gémissements qui montent du fond de ces lacs et de grandes batteries de soldats et de sinistres bruits d'armes autour de nos cabanes. Ce sont sans doute les âmes de ces anciens guerriers que le bon Dieu envoie en ce monde pour expier leurs péchés. C'est étonnant ce que nous entendons de choses surprenantes dans ces montagnes. L'autre soir encore, j'ai clairement distingué la voix du roi Arthur et les aboiements de sa meute qui courait après une proie invisible. Et mon père m'a dit que lui aussi avait souvent fois entendu le bruit du bâton du sabot, les sifflements de tel berger de son temps qui n'avait pas vécu en bon chrétien. Il fut même une époque où les pâturages de ces montagnes appartenant à une dame furent mis en interdit. Une puissance invisible protégeait les droits sacrés de cette femme, et quand un berger indiscret, larron, y menait ses troupeaux, les vaches ne voulaient point toucher à cette herbe défendue et passaient de longues heures à mugir jusqu'à ce qu'elles fussent conduites dans d'autres pâturages. Tel autre vit un jour deux de ses moutons enlevés en l'air et disparaître à tout jamais. Un autre enfin reçut un coup d'aile d'oiseau sur son épaule et honque plus de son bras paralysé, il ne put faire le signe de croix. Qui se serait douté que l'on allait nous révéler d'aussi merveilleuses choses dans ces déserts que je ne croyais hantés que par l'isard et l'oiseau de proie? Nous étions sur une terre de prodiges, car à deux pas de lui, notre intéressant narrateur nous montra une source dans laquelle il suffit de laisser tomber quelques gouttes de lait pour provoquer de fertilisantes pluies. Que de charmants petits poèmes pourrions-nous écrire sous la dictée de ces imaginations enfantines qui savent tout embellir de gracieuses fictions. Notre homme comptait encore quand tout à coup un hurrah joyeux fut poussé par tous ses auditeurs. Le voilà, le voilà! C'était le dôme massif et majestueux du Mont-Valier qui émergeait du sein des nuages comme pour nous souhaiter la bienvenue. Salut à toi, roi de ces monts sauvages. Demain, nous serons tes hôtes joyeux. Nous demeurâmes un instant sous l'impression saisissante de cette apparition soudaine. Le Mont-Valier était là, à quelques pas de nous, debout comme un géant solitaire, silencieux, que la tempête n'a pu émouvoir. Un regain d'énergie nous enleva et nous reprîmes nos sacs. En un clin d'œil, nous descendîmes le ravin de l'Espugue, nous franchîmes le torrent qui sort des étangs et nous attaquâmes l'ascension des Laouzettes. Ascension pénible à travers les rochers, les genévriers, les églantiers, sans d'autre chemin que celui que l'instinct nous faisait prendre par d'épais buissons chargés d'eau. Vers 6 heures, nous rencontrâmes au milieu de la montagne une petite cabane abandonnée. Quelques excursionnistes, déjà fatigués, proposèrent de s'arrêter et de passer la nuit dans ce piètre abri. On tint conseil, et il y eut, comme dans toutes les assemblées délibérantes, divergence d'opinion. Les plus hardis étaient d'avis de franchir les crêtes encore éloignées des Laouzettes et d'aller coucher aux cabanes du Mont-Valier. Ils eurent la liberté d'exécuter leur plan, et les plus prudents, d'autres disaient des lâches, j'étais du nombre, firent halte et élurent domicile en ces lieux. Bon Dieu, quelle nuit! J'en ai gravé la mémoire sur mes tablettes à la façon des anciens, avec un style de fer. Dormir sur les montagnes, a écrit le comte Henri Russell, est une des joies les plus pures de la vie, à la condition que l'on pourra y dormir. Mais passer une longue nuit dans un réduit étroit, court et bas, sans fermer l'œil, n'ayant pas une pierre pour siège ni un fagot de branche pour coucher, exposé à la pluie qui suinte de la toiture et au vent qui siffle par les trous des murs, infecté par une fumée nauséabonde qui n'empêche pas vos membres de se roidir de froid, monsieur le comte, voilà une joie si pure soit-elle que je ne chanterai jamais sur la lyre. Et telle fut notre nuit dans ce malencontreux gîte où la main du pâtre n'avait pas fait de réparation depuis de longues années. Aussi craignions-nous que la toiture, mal soutenue par des poutres de sapin vermoulu, s'écroula sur nos têtes. Plus de portes, plus de bancs, plus de chevilles de bois au mur pour accrocher nos sacs. Le dénuement le plus complet, dans l'isolement d'une montagne qui ne pouvait même pas nous donner du bois pour nous réchauffer et préparer notre petit souper. Quelques rhododendrons que nous arrachâmes, verts et humides, nous remplissaient la cabane d'une fumée moins tolérable que le froid et la pluie du dehors. Le guide, qui était resté avec nous, il faut lui rendre justice, dépensa toutes les ressources de son esprit pour égayer notre situation. Renonçant à nous procurer du feu, il conta ses campagnes militaires, ses aventures de chasse, et nous répéta maintes fois la chanson de Pandore. Je soupçonnai notre joyeux compagnon d'avoir eu maille à partir avec la maréchaussée pour se venger aussi spirituellement de ces respectables défenseurs de la loi. Il y avait là-dessous quelques vieilles rancunes de braconniers. Mais si intéressants que fussent ces récits, il ne nous fit pas oublier l'heure du départ que nous saluâmes avec plaisir dès que nous vîmes pâlir la lumière des étoiles.